I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bonjour à tous, bienvenue dans Saderail, l'émission, on ne parle jamais de quiz, surtout aujourd'hui. Au programme, les classiques pavés qui ont commencé comme en 2023, c'est la Visma qui gagne. Van Aert a d'ailleurs remporté Kuurne-Bruxelles-Kuurne. Vous a-t-il rassuré pendant ce week-end d'ouverture? On va poser cette question tout à l'heure. Autre jaune et noir brillant, Jonas Vingegaard qui a survolé, je pèse mes mots, le Grand Camino. Il devance le français Lenny Martinez, une nouvelle fois brillant, mais mérite-t-il Lenny Martinez d'avoir un peu plus de leadership au sein de la Groupama FDJ, une nouvelle question que l'on va poser aussi tout à l'heure. Et puis ensuite, direction l'Italie et le soleil, l'Estrade qui arrive avec le retour de Tadej Pogacar. Il y a Paris-Nice aussi, la première grosse course par étape de l'année. Il va y avoir de quoi dire. Et on a donc des courses en Belgique, des courses pavées. On a donc James qui est de retour parmi nous. Salut James.
Bonsoir à tous. Salut.
Toujours avec le micro des années 50, ça fait plaisir de te retrouver parmi nous. En plus, tu étais sur place, je crois. T'étais à Oetz plutôt, ou t'étais aux deux?
J'étais à Umlop et à Kuurne, mais j'ai pas fait le samin aujourd'hui, je suis bien content.
Oui, bon,
je suis dégoûté pour Arnaud.
C'est pas la course la plus passionnante, même s'il y a eu des jolis mots de la part d'Arnaud Delis. On vous laisse regarder le replay sur notamment Eurosport si vous voulez. Il y a aussi donc un nouveau signataire donc de Saderail avec la type qui est avec nous pour les meilleurs pronostics. Et aussi, si vous voulez savoir s'il y a bordure ou pas lors d'une étape ou d'une course, demandez-lui et faites l'inverse. Salut, ouais,
c'est ça. Bonsoir Johan, bonsoir à tous, ravi d'être ici pour ce nouvel épisode. Comme tu le disais et comme vous l'avez dit avec Jérémy dans le quiz, vous m'avez surnommé la chambre à air. Je vous invite d'ailleurs à ne pas aller voir cette vidéo. Elle est disponible sur YouTube.
Oh, on l'a pas dit encore.
Évidemment, c'est pas trahir un secret que de savoir qu'on m'a jamais appelé comme ça, vraiment. Mais on devrait plutôt m'appeler à la pompe en prono, vu la qualité de mes pronostics.
Ouais, mais nous, les mauvaises blagues, franchement, c'est pas du tout notre truc. Vraiment pas du tout. Et puis, il y a aussi Anthony Colas. Voilà, donc on passe tout de suite à la première partie. Alors, il faut savoir.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. J'avais longtemps que je n'avais pas entendu ce petit jingle. Très content de vous retrouver.
Bizarrement, oui, bon, content aujourd'hui.
Je vois que tout le monde est en forme. James a un son superbe. Tib a un super truc de fond d'écran. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est flou derrière lui, j'adore.
Sur Discord.
Et par contre, le casque du chef, c'est pas possible, quoi. Et les écouteurs d'iPhone, c'est...
Bah, et en fait, c'est parce que j'ai pas mon casque ici avec moi, donc j'ai pris autre chose, mais je vous entends très bien, surtout pour toutes les bêtises que vous allez dire. Alors Anthony, aussi une couronne, on ne sait pas pourquoi, il a essayé de la mettre, hein, plusieurs reprises en préambule, il a déjà perdu. Voilà, donc super. Vous pouvez apprécier pour ceux qui nous regardent, et puis ceux qui nous écoutent, bah, imaginez Anthony en train d'essayer de mettre une couronne sur la tête, évidemment.
Le problème, c'est que le casque, je peux pas la mettre en fait.
Ah ouais, mince. Mais il a été.
Moi, je la garde ici, elle est dans mon bureau rangé.
Plutôt brillant. C'est la couronne du quiz. Ouais, sur le quiz, mais je vous laisse aller la voir sur YouTube. Je sais pas si on l'a déjà dit, mais allez, si vous voulez regarder et rigoler aussi. Tiens, on va rigoler parce qu'on va tranquillement parler de cyclisme avec les meilleurs experts.
Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein.
Et ça fait plaisir d'ailleurs de retrouver des courses pavées qui nous avaient manqué. Ça fait moins plaisir par contre de voir toujours la même chose avec la Visma dominée autant. Mais il y a une autre chouchou, Yann Tratnik, qui s'est imposé sur Let News Blad après une course débridée. Puis Van Aert le lendemain sur Kuurne, Bruxelles-Kuurne. On ne parlera pas du Samin ou alors très peu. On va commencer donc avec ceux qui ont regardé la course. On va commencer avec celui qui était présent au plus près, avec James. qu'est-ce que tu retiens de ces deux courses finalement? Qu'est-ce qui ressort de ce bilan un petit peu de ce week-end d'ouverture?
Alors, on peut résumer en une phrase. Visma était dans son monde et le reste, voilà, il y avait deux courses en une. Voilà, rien de plus, rien de moins. Ça paraît un peu terne comme bilan, mais rien à dire de plus. Quasiment, ils sont au-dessus, intouchables. Presque imbattable sur ce week-end d'ouverture. Il y avait une toute petite fenêtre, mais alors une toute petite au moment du regroupement là avec le mur de Gramont, etc. Mais finalement, la force collective a fait que, et dimanche, Wout Van Aert a décidé de mettre les points sur les i lui-même, histoire de montrer aussi qui était le patron de l'équipe.
Et voilà. Thibaut, tu penses que c'est ça aussi qui ressort? Tu as vu la domination de la Visma, la victoire ne pouvait pas leur échapper pour les deux courses. Tu as eu cette impression-là aussi?
Je pense qu'on va l'imager, hein. Il ressort que les guêpes de la Visma Lease a Bike attaquent toujours en essaim, en fait. Et ça leur a réussi en 2023, ça leur réussit encore en 2024. Hein. En 2023, on se rappelle, l'équipe, elle était compliquée à manœuvrer. Et quand tu vois qu'ils attaquent à 140 km de l'arrivée, qu'est-ce que tu veux faire à part manœuvrer un groupe en surnombre? Ça paraît compliqué. En plus, ils attaquent au bout de 60 km de course seulement. Donc, on peut se demander maintenant si les classiques, ils vont les courir façon étape reine du Tour de France, du départ à l'arrivée, sans jamais débrancher. Moi, quand je me rappelle l'année dernière de Paris-Roubaix, où ils enclenchent dès Aveluy, leur essorage, alors que d'habitude, on attend la trouée d'Arambert. On peut se demander qu'est-ce qu'ils vont faire, et le cyclisme, il a changé, et les Visma Lease a Bike visiblement n'y sont pas pour rien. Donc en fait, la question qu'on peut se poser, c'est comment exister face à un tel collectif quand tu ne t'appelles pas Tadej Pogacar ou Mathieu Van Der Poel.
Ouais, justement, il y avait une déclaration, alors je ne sais plus qui avait dit ça, qui disait en gros, quand ils mettent en route, je parle des coureurs de la Visma, quand ils mettent en route très loin de l'arrivée, c'est presque impossible de pouvoir les contrer tant ils ont des coureurs capables de s'imposer. L'année dernière, il y a Yvan Barle et Benoît. Là, c'est cette fois-ci, c'est Tratnik et Van Aert. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça. Est-ce que, Anthony, tu vois quelque chose qui pourrait contrer cette Visma? Parce qu'on essaye de trouver, peut-être que dans le chat aussi, on a quelques idées. Mais quand on voit ce genre de course, on se dit que c'est compliqué.
C'est surtout quand tu vois de toute façon l'équipe qui est alignée. Oui. Quand tu vois l'équipe qui est alignée, ils sont sur 7, ils sont 6, 7 à pouvoir gagner en fait. Donc oui, tant que ça va partir de loin et qu'ils vont mettre leur pion dedans comme ils ont pu le faire là, à se retrouver à 50% de l'échappée, automatiquement oui, ils ont un coup d'avance. Après, il y a eu des petites manœuvres, Jorgensen là qui attaque, apparemment d'après type c'était pas spécialement voulu. Moi je les ai trouvés. Enfin, je sais plus ce que c'est dans quel mont, hein, où Van Aert essaie de rentrer sur
Skut. Ouais.
Il bute un peu. À ce moment-là, je les ai pas trouvés. Enfin, Je ne les ai pas trouvés si sereins que ça. Puis il y avait deux lits aussi. Il y avait deux lits. Il fallait aussi qu'ils se séparent de deux lits. Parce que voilà, au sprint, Van Aert est bien, mais bon. Alors oui, ils étaient au-dessus, mais de toute façon, ils étaient au-dessus. Pourquoi ? Bah, parce qu'ils étaient trois. Ils étaient trois. Trois sur six. Donc automatiquement, tu pèses. Et puis voilà, tu fais un peu ce que tu veux. Mais non, tant qu'il n'y aura pas effectivement un Van Der Poel ou un Pogacar pour venir les ennuyer, c'est vrai que pour le moment, on ne voit pas trop qui va pouvoir venir jouer avec eux. Mais ça a fait pareil l'année dernière. Rappelez-vous, même au début de saison, on s'est dit « Ouais, ça va être ennuyant. »
Ils faisaient 2 sur 3 sur le podium.
Ça va être pareil. Ils ont fait pareil au début de l'année dernière. Et puis bon, après, ça s'est quand même un petit peu tassé. Bon, pas non plus ce… Voilà, on a fait deux classiques.
C'est ça type qui manque, c'est la superstar qu'on attend, Mathieu Van Der Poel, c'est en gros ça, ou un Pogacar, c'est ce qu'on attend pour les contrer.
Ouais, c'est ça. Bon, malheureusement, Pogacar ne fera pas les classiques, on le sait déjà. Mais j'ai envie de reprendre un peu la métaphore que Arnaud Delis nous a livrée à l'arrivée. Et on le sait, bien souvent cette année, et comme l'année dernière, les Visma, au départ de ces classiques, auront une perdasse entre les mains. Bon, on l'a vu avec le regroupement au sommet du Bosberg. À ce moment-là, ils n'avaient pas forcément les nuts. Et heureusement que le mouvement de Jan Tratnik avec Nispolit leur a amené un as à la river. Mais bon, c'est pas forcément avec la meilleure main que tu es obligatoirement drawing dead en face. Donc forcément, on va espérer que l'as Mathieu Van Der Poel, couplé au roi Philipsen, puisse contrer un peu ses statistiques. Et comme au jeu de cartes, avec une paire d'as, tu seras souvent gagnant. Mais fort heureusement pas tout le temps.
Tu t'es trompé d'émission, hein, le RMC Poker Show.
Oui, c'est le Poker Show, c'est à côté.
Moi j'ai rien compris ce qu'il a raconté.
J'ai rien compris ce qu'il a dit. Ouais.
On a l'impression que c'était écrit, poker, donc c'était écrit parce qu'il y a eu du draw in dead ou je sais pas quoi là. On s'est à peine pédalé, il nous demande pas autre chose. Il y a quelque chose aussi que disait Anthony avec Wout Van Aert qui a fait un petit peu peur, je sais pas trop, mais on a craint le voir lâcher sur Let News Blad, en tout cas pas revenir sur Skoyens. Est-ce qu'on a eu, je ne sais pas, c'est quoi le sentiment en Belgique sur Van Aert ? Est-ce qu'on l'a trouvé quand même aérien au final ? Parce qu'il gagne Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ça reste Kuurne. Mais est-ce qu'on l'a trouvé aérien ? Est-ce qu'on a encore quelques doutes avant l'arrivée des plus grosses échéances ?
Au moment de l'attaque, on se regarde un petit peu tous et on se dit « Oh, ils vont quand même pas perdre ». Et directement, moi, l'image du Newsblatt, je crois que c'est en 2012, de Stan Aert avec les trois quick steps. Mais revenu, je dis, oh misère, ils vont quand même pas se faire tailler par un Squints qui va partir à 30 km de l'arrivée, parce qu'à ce moment-là, Wout n'a pas été en mesure d'aller le chercher tout de suite. Il n'est pas encore à 100%, même s'il gagne, déconcertante facilité Kuurne, parce qu'il avait envie de mettre lui-même le bordel à ce peloton. Mais il n'est pas encore tout à fait à 100%, et en Belgique, on en a conscience. Mais il le sait, et il a déclaré aussi, il a une autre approche pour être à 100% pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et il sait qu'il sera jugé rien que sur ces deux courses-là. Il peut faire ce qu'il veut, il peut gagner Kuurne, ça ne changera rien. Parce que s'il perd, il se fera quand même tailler au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix dans la presse. Donc là, il y a une approche qui est différente. Il part là maintenant pendant... une vingtaine de jours, c'est extrêmement long en stage là, oui. à Tenerife. Bon, on va voir ce que ça va donner. Mais il n'était pas encore à 100% de son niveau. Mais ça, la remarque vaut encore pour pas mal de coureurs. Parce que ce que je retiens aussi, c'est que, on s'est fait traîner par la Visma. Mais la concurrence espère vraiment que grâce à Paris-Nice et à Tirreno, tout le monde ira chercher ces quelques pourcents supplémentaires pour être un peu plus compétitif, à voir ce que ça va donner, quoi.
Justement, on en parlera des déceptions, parce qu'il y en a autour des favoris, en tout cas des coureurs qui avaient envie de s'imposer sur ces courses. J'ai envie d'entendre l'avis d'Anto déjà pour Van Aert. Est-ce que toi, tu es rassuré après ce week-end ? Où tu en es sur l'échelle de Van Aert ?
Il est très affûté en tout cas.
Ah, bon, on a vu les mollets saillants.
Ouais, moi je le trouve très affûté au niveau des mollets notamment. Ouais, il y a des photos sur les réseaux, il y a des trucs. Il est très affûté, même au niveau du visage. Maintenant, comme l'a dit James, hein, il a eu une approche complètement différente. Il a changé de coach, on le sait, cet hiver, on en a parlé pendant le cyclocross. Il a changé l'approche complètement différente. Et je rejoins ce qu'a dit James. J'ai vu une interview, je ne sais pas quand, cette semaine, où il a dit que de toute façon, le pic de forme était pour le Ronde et Roubaix. Donc, samedi, ouais, moi aussi, quand je le vois se lever, parce qu'il est là, c'est lui qui est le premier en train de au pied du talus, là, et qui est derrière. Et il bute, clairement. Alors après, est-ce qu'il y a eu des consignes? Je ne sais pas. Bon, ils l'ont repris après. Jorgensen était monstrueux, hein, Jorgensen, samedi. Donc, il a fait un gros boulot. Mais s'il n'y avait eu que samedi, ça m'aurait un petit peu inquiété, peut-être. Après, voilà, dimanche, on a vu le résultat. C'était différent. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Après, c'est pareil, on n'a pas... On va voir, on va attendre les prochaines échéances, voir un petit peu ce que ça va donner quand les Pogacar et les Van Der Poel vont arriver. Parce que c'est, de toute façon, ça sera ces clients-là qu'il aura en face de lui. Enfin, le Ronde, je ne sais pas, je n'ai pas les programmes de tout le monde, mais ça sera ces clients-là qu'il aura en face de lui.
Et d'ailleurs, il y a aussi quelque chose, je crois que c'est dans les médias belges, qui disait qu'en fait, l'adversaire, l'ennemi presque de Van Aert, c'est son équipe, parce qu'il y a tellement de coureurs autour que ça peut l'empêcher, d'un point de vue aussi stratégique, tactique sur les courses, de progresser comme il veut, parce qu'on sent qu'il est leader, mais en même temps, il y a les pions à côté qui ont aussi leur chance, et surtout, ça peut le déranger. Je ne sais pas ce que t'en penses, Thibaut, là-dessus, mais c'est vraiment ce qui ressortait aussi des médias belges.
Bah oui, mais c'est déjà ce qui tannait l'année dernière en interview. Wout van Aert le disait, l'objectif, c'est pas tant pour son équipe de le faire gagner un monument, c'est que son équipe gagne un monument. Et quand tu vois les prétentions qu'a Christophe Laporte, par exemple, pour un Paris-Roubaix, bah tu te dis qu'il y aura une concurrence forcément interne. S'il y a un jeu d'équipe, ça peut aussi tourner au désavantage de Wout van Aert. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des circonstances qui peuvent faire que la tendance s'inverse, et notamment celle de Paris-Roubaix et du Ronde. On a tendance à dire que Paris-Roubaix lui convient totalement, quand actuellement je vois que peut-être que le Paterberg ne sera pas emprunté. Oui, si on emprunte une montée plus facile, il restera le vieux Coirmont. Tu mets un vieux Coirmont vent de face, là tu remets dans le jeu face à un Mathieu Van Der Poel qui est surexplosif, surpuissant. Bon, après, dans ces conditions de jeu, tu me diras, tu remets aussi en face de lui un Mats Pedersen. Mais peut-être que le rôle peut s'inverser et qu'on attendra Wout van Aert sur le Ronde, comparé à Paris-Roubaix où il y a peut-être un peu plus d'incertitude.
On va terminer sur Van Aert avec James. Du coup, je parlais des médias belges qui expliquaient l'ennemi de Van Aert, c'est son équipe. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'écrivaient tes confrères?
Non, je suis tout à fait d'accord et je suis sûr que ça arrivera tôt ou tard sur cette période de classique où il se fera avoir par l'un de ses coéquipiers. Et franchement, ce qu'il a fait à Kurt, c'est pas anodin. Il a voulu lui-même mettre un peu de l'ordre en disant c'est moi le patron, c'est moi qui prends l'initiative à Kuurn, et voilà quoi, c'est important parce qu'il se rend bien compte que son équipe est peut-être encore un peu plus costaude que l'an dernier, avec Jan Traknik qui vole, Jorgensen qui est énorme, Laporte que j'en parle même pas, enfin bref, je vais pas commencer à refaire la liste, donc forcément il se dit il y a du danger déjà qu'il y a Van Der Poel, mais mon équipe aussi. Alors tant qu'on se tire pas dans les pattes, ça va. Le patron est content, mais personnellement, en tant qu'individu, Wout, il doit se dire, mais nom d'une pipe, c'est pas forcément une situation si bénéfique que ça pour gagner ces deux monuments-là. Il y a quand même un risque.
Oui, le premier prémisse qu'on a vu, c'est l'anticipation de Jorgensen avant le mur de Grammont. Exactement. Et l'enchaînement avec le Bosberg, en sachant que Wout van Aert dans la presse a dit que lui, il avait dit qu'il préférait qu'on arrive groupé au pied du mur de Grammont et que c'est Jorgensen qui a pris l'initiative. Suffit qu'il y en ait un qui prenne l'initiative, type un Van Barle, tu le revois plus, et là Wout van Aert peut dire adieu à son monument.
Et tiens, en parlant de Van Barle, ça fait partie des coureurs qu'on a peu vu sur Light News Blad, mais il y a eu quelques déceptions. Moi, j'ai noté quelques coureurs. Jasper Philipsen, on va pouvoir en parler. Peut-être Stefan Kung aussi, qui a tenté de batailler, mais que je n'ai pas vu non plus. C'est rien que ça. Anthony, la déception, toi, c'est sur sort une déception d'un coureur dedans. Très rapidement, c'est lequel?
Non. Oh. Pas de...
T'as tout aimé, t'aimes tout le monde.
Moi j'aime tout le monde et j'aime quand Wout est devant. Donc non, moi j'ai pas. Ah, ça, ce qui m'a un peu déçu, c'est mon petit Tommy, mon petit Pitcock qui se fait un petit peu chahuter, qui était là dans l'échappée, qui était content d'être là et qui se faisait un peu chahuter. Mais non, après j'ai pas spécialement de déception.
Tib, t'as une déception?
C'est le début de saison, de toute façon.
Pitcock s'est quand même fait sacrément chahuter dans sa montée, parce que l'année dernière, c'est lui qui a dynamité dans le Berendry, c'est lui qui était en difficulté cette année. C'est une montée qui lui correspond totalement.
Tu voyais bien qu'il était content d'être là, quoi. Pédalé avec tout ce qu'il pouvait.
Dans le chat, on dit Lidl Trek avec Steven, pourquoi pas, je peux l'entendre. Donc j'ai dit Philipsen, c'est vrai qu'on l'attendait un peu mieux. Moric, bien sûr.
Il a couru à contre-temps tout le week-end. Et il n'était jamais vraiment là au moment où il fallait et il courait par derrière. Donc on en attendait plus sur ce week-end d'ouverture de Matej Moric avec son collectif. Et au final, ils ont été décevants comme le collectif un peu de la Groupama, même si Pity a rattrapé un peu plus sur Kurn.
Et il y a aussi Jonathan Milan aussi qu'on a mis en déception parce que la team l'avait donné très fort. Donc du coup, on peut le mettre directement.
Ils étaient très déçus. Hein. J'en ai parlé avec Maxime Bonfort, le DS de Lidl Trek, très très déçu de Jonathan Milan. Il s'attendait vraiment à autre chose. Et le fait qu'il soit vraiment forfait pour Kurn, ça a vraiment bousillé la tactique. Quoi, parce qu'il s'imaginait vraiment... un scénario avec un sprint à Kurn et Jonathan Milan avec sa pointe de vitesse, forcément il aurait eu des grandes chances de victoire. Donc là, bad point pour l'Italien.
Bon. J'ai envie de mettre une troisième, dernière mauvaise note, c'est peut-être celle naturellement comme l'année dernière, comme le prolongement des dernières années avec le collectif Soudal Quickstep qui en fait maintenant ne vit plus que par les exploits de Remco Evenepoel, actuellement au sprint de Tim Merlier et par les frasques de Patrick Lefevreux.
Ouais, et Julien Alaphilippe qui était très très malchanceux sur l'Etnusblad, il est tombé deux fois, enfin bref, c'était vraiment une course à oublier pour lui, donc on le notera pas sur ce samedi, mais on l'attend bien sûr toujours. Nous, Français, au tournant, en tout cas, pour essayer de nous gagner de belles courses, si c'est encore possible. On va squeezer les classiques. Ça y est, c'est terminé, parce qu'il y avait aussi des courses par étapes, évidemment, ce week-end. Bon, là, il y a eu l'UAE, donc c'était peut-être un moins intéressant, parce que c'est un Belge qui l'a remporté. On parlera peut-être dans En attaque, on n'attaque pas. je vois James qui fait la tête déjà. Non, mais sur Jonas Vingegaard, tiens, on va continuer avec la Visma, qui a survolé Grand Camino.
C'est un Français
Il gagne le Tour de France, donc il est semi-français la plupart du temps. Donc première étape, on a compris qu'avec les intempéries ça va être compliqué, le chrono, donc tout le monde l'a fait deux à l'heure, donc du coup il est tranquille, mais sinon le reste c'est premier, il a survolé tout le monde, il a attaqué quand il voulait, il a gagné quand il voulait. Franchement, Vingegaard, c'était quand même impressionnant. C'était une rentrée pour lui, hein. faut se rappeler hein, quand même que le mec faisait ses premiers jours de course. Hein.
Après, c'est une rentrée attendue. Si on se réfère aux chiffres estimés, oui, évidemment, c'est impressionnant. Mais maintenant, est-ce que c'est faire offense à la concurrence que dire que Lenny Martinez ni Egan Bernal sont des fantastiques c'est ce qu'il faut, en fait, pour faire bousculer le Danois. C'est avoir ce statut privilégié hein, dans le peloton 2023-2024. Donc, on peut aussi rappeler que sur la même épreuve, l'année dernière, on estimait sur la dernière montée de la dernière étape, un Jonas Vingegaard à 7,45 watts par kilo, ça parlera à certains. Sur la montée de dimanche, c'est du 7 watts par kilo, mais ça n'empêche pas, en fait, le leader de la Visma d'avoir été, par exemple, l'année dernière, en deçà sur Paris-Nice. Donc, en fait, la première réponse qu'on aura, c'est face à la vraie concurrence, et la vraie concurrence, elle interviendra autour du Pays Basque face à Primoz Roglic.
Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Antoine, par rapport à ça?
Je suis d'accord avec Kib. Ouais. Il faut remettre. C'est rien contre les autres, mais il n'y avait pas non plus une concurrence de fou. Alors, il a fait ce qu'il a voulu, mais un Lenny Martinez qui est en train de l'apprendre, un Egan Bernal qui revient, et d'ailleurs, on va en reparler, je pense, après. Ça fait plaisir de le voir revenir. Mais après, il n'y avait pas non plus une concurrence folle sur ce Grand Camino. Donc, c'est une grosse rentrée. Mais il faut remettre un peu le niveau en face. Quoi.
James, content de voir Bernal performer un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on... Même si on ne connaissait pas le niveau, 7 kilowatts par kilo ou je sais pas quoi. Non, je rigole. Mais non, mais Bernal est de retour.
Bernal is back, oui. Effectivement. Peut-être pas encore le tout grand Bernal, mais ça va déjà beaucoup mieux, en tout cas semble-t-il, que l'an dernier. Écoute, si ça continue comme ça, pour la Vuelta, il pourrait être candidat à un podium, hein, si ça continue comme ça, avec cette progression-là. Oh, c'est chouette pour eux, c'est surtout chouette pour Ineos, hein, qui est dans le dur sur les courses par étapes depuis quelques saisons. S'ils peuvent retrouver un Bernal à son meilleur niveau, moi je serais curieux de voir ce que ça va donner face aux Danois, face à Poggi. Je crois qu'il sera en dessous, mais peut-être qu'il sera le meilleur du reste, et donc potentiellement il y a moyen d'aller chercher un podium de grand tour, hein, s'il retrouve ses gambettes. Donc chouette, non, content pour lui, content pour Ineos.
Egan Bernal qui a terminé troisième donc de ce Grand Camino, entre les deux. Donc Lenny Martinez, j'avais posé la question en préambule, deuxième donc du classement général, belle performance pour le Français qui a déclaré après la course.
On va l'imaginer sur le Tour de France là maintenant.
C'est la première fois que je me battais avec Vingegaard, j'espère le refaire à l'avenir. Voilà ce que disait Lenny Martinez. C'est la deuxième fois en deux courses qu'il domine son coéquipier David Godu, qui est leader normalement de la Groupama FDJ. Alors la question maintenant se pose, est-ce qu'il maintenant il faut réfléchir à un changement de leadership dans la Groupama FDJ? Et alors, je sais que beaucoup vont me tomber dessus en me disant ils n'ont pas les mêmes calendriers et tout. On parle de leadership, on ne parle pas forcément de leader sur une course, une telle course, mais est-ce qu'on est en train de tranquillement de basculer? James, avant d'être aigri, je vais te donner la parole à Tip, s'il te plaît.
À moi?
Oui, bien sûr, à toi. Pour que tu sois plus objectif, j'ai besoin d'un élève objectif parce qu'Anto, il ne va pas être content aussi.
Le truc, c'est que maintenant qu'on a Lenny Martinez, on a un peu ce duo de tête, en fait. Il nous faut un duo de leaders pour avoir plusieurs cartes sur les trois grands tours. David Godu, ça fait un moment qu'il est sur le Tour de France, qu'il exprime aussi ses envies d'aller s'aligner sur le Giro. Bien qu'on connaisse son profil, une Vuelta serait beaucoup plus adaptée pour David Godu. Donc, c'est la formation nécessaire pour permettre à David Godu de sortir un peu de ce carcan que lui impose l'équipe, que lui impose le sponsor, qu'il s'impose aussi un peu, puisque le Tour de France, c'est aussi prestigieux. Mais il a aussi des envies d'aller voir ailleurs. Donc bon, ça va être une année de transition pour David Godu, mais ça va lui permettre aussi d'aller se frotter à d'autres courses qui l'intéressent et qui lui conviennent beaucoup mieux que le Tour de France.
Et Anto, alors est-ce qu'on ne se devrait pas, parce que maintenant il faut vraiment se dire les choses, est-ce qu'on ne devrait pas tout doucement basculer dans c'est l'équipe de Lenny Martinez? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux miser sur le jeune français plutôt que Godu, où on a vu quand même les limites et on le voit mal
il
quand même progresser?
Il veut que tu le dises.
Je sais ce qu'il veut que je dise. Alors, bah, je vais pas te dire
tu
oui.
Dis ce que tu veux.
Non, parce que. Moi, je pense qu'il est encore. Il a 20 ans. Bon, alors, c'est sûr que quand on revoit les Pogacar il y a 2-3 ans, oui, ça va très vite maintenant. On le sait que ça va très, très vite. Ils sont performants de plus en plus jeunes. Bon, il est en train d'apprendre crescendo quand même, le petit Martinez. On le voit en plus que voilà, c'est un coureur qui apprend, qui lâche rien. Maintenant, moi, j'ai peur d'un truc, c'est qu'on se retrouve un peu dans la position qu'a eu Godu avec Pinot, tu vois.
Oui.
Moi, je pense très honnêtement que Godu est passé à côté de quelque chose à une période, il y a quelques années peut-être. Il y avait Pinot, il y avait Godu qui était là et on n'a peut-être pas fait voilà.
La bascule.
Peut-être pas la bascule, mais comme tu as dit tout à l'heure, il y a des courses où on a voulu mettre Godu pour aider Pinot, puis finalement on voyait bien que après Pinot il y a des problèmes de santé et autres, ça n'a pas fonctionné. Mais je me dis qu'il a peut-être perdu des années et je voudrais pas que ça fasse la même chose avec Martinez. Maintenant, te dire que oui, c'est lui le leader, et là, il est encore un petit peu tendre. Je pense que voilà, l'année dernière il fait la Vuelta, là cette année on va voir, je pense qu'il va être de toute façon aligné sur un grand tour, mais. Ne poussons pas non plus, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Il a 20 ans, il apprend. Là, il s'est frotté un Vingegaard. On l'a vu sur le truc du Var, là, où il va claquer l'autre, alors que à 50 mètres de la ligne, il est battu, il vient le toquer. Voilà, c'est un mec qui a le couteau entre les dents. Mais, je lui laisse encore une petite année, moi.
Bon, James,
leurs objectifs hein, sont totalement différents.
Cette année, David Godu sera
leader sur le Tour de France et il sera en aide à Lenny Martinez qui sera de nouveau aligné sur la Vuelta, mais cette fois dans le rôle de leader, et David Godu sera là pour l'épauler, pour l'encadrer.
Et comme Vingegaard et Kuss et Roglic, ou parce que là aussi on a vite basculé d'un côté ou de l'autre. Mais bon, je veux entendre avant James là-dessus, parce que dès que j'ai sorti le thème, alors là il a commencé à se fâcher. Donc vas-y, sors tes arguments.
Mais non, mais tu sais très bien que c'est un sujet qui m'énerve. Parce que c'est toujours le meilleur moyen pour mettre une pression folle dès qu'il y a un Français qui marche. Allez, vas-y. Il est le nouveau grand talent, blablabli, blablabla. Il faudrait pas refaire les mêmes erreurs. Néanmoins, je trouve quand même que la Groupama donne aussi le bâton pour alimenter ce genre de polémique. Parce que là, on a les deux qui sont alignés pour leur rentrer sur les mêmes courses. Donc forcément, là, Martinez, en étant meilleur que Godu, il prend une petite parcelle de terrain, forcément il marque des points, donc c'est pas forcément très très malin. Moi j'aurais complètement scindé les programmes des deux, avec deux leaders, voilà, Godu indiscutable leader de son côté et Martinez également de l'autre. Mmh. Et puis comme Thib le dit, apparemment Godu va être au soutien de Martinez pour la Vuelta. Je trouve ça un peu bizarre quand on a normalement un leader indiscuté et indiscutable comme l'est normalement David Godu. On demande pas à David Godu d'être en soutien d'un Lenny Martinez. Ça me semble complètement invraisemblable. L'inverse me paraît possible, hein, Lenny Martinez au service d'un David Godu. Donc je sais pas, je comprends pas trop. J'ai l'impression que là on donne le bâton pour tout simplement justement amener ce genre de questions comme tu l'amènes si bien, Johan.
Merci.
Voilà, est-ce qu'il faut mettre est-ce que c'est l'équipe de Martinez? Attention.
Merci en tout cas de me faire des compliments comme ça, mais tu passeras toujours pas devant Jérémy, hein, évidemment, en termes de meilleur élève.
Non, mais lui c'est une autre catégorie. Non, je ne serai pas vulgaire.
Attention.
C'est la transmission. C'est la transmission que David Godu est en train de.
Ah, Jérémy, il est dans la transmission. Ouais, il est dans la transmission, Jérémy.
C'était exactement le même rôle qu'a eu Thibaut Pinot avec David Godu quand ils se sont alignés tous les deux sur le Tour de France.
Oui, mais la preuve, regarde aussi maintenant où on en est.
Ouais, et puis après, la transmission n'était pas forcément.
Pour moi, ça n'a pas fonctionné.
Mais est-ce qu'il faut être inquiet du coup pour Thibaut, pour Godu ou Anto? Est-ce qu'il faut être un peu inquiet parce qu'on le voit quand même qu'il a
Godu
un petit peu de mal à performer un petit peu? Là, on l'a vu sur Grand Camino, t'es pas dans le coup, ça peut arriver.
Ça lui fout une pression supplémentaire parce que là, Godu, il en est à deux courses et zéro résultat. Donc, à un moment donné, d'ici le Tour de France, il va falloir quand même que David Godu montre qu'il est en mesure d'assumer ce statut de leader unique au Tour de France. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, sur une des épreuves où il est prévu, je ne sais pas où il va aller, Paris-Nice, là, je crois.
Ouais.
Il va falloir montrer quelque chose à Paris-Nice de costaud. Hein. Je vais pas mettre la barre comme l'an dernier sur un podium, parce que après, sa saison, elle s'est arrêtée là. Mais ouais.
Non, après, mais d'ailleurs, si on compare leur programme à partir de maintenant,
ils seront
plus alignés jusqu'à la Vuelta.
Quelque chose aussi que je dis, c'est que l'année dernière, Arnaud Démare n'a pas performé en début de saison. Madio l'a éjecté du Tour de France. Je suis désolé, mais ça veut dire qu'il y a quand même une certaine pression de sa part. Parce que si jamais il ne fait pas la même chose, si Godu fait ni 30e de toutes ses courses, que je ne le souhaite pas, évidemment, il y aura peut-être une remise en question. Non, personne ne voit ce scénario-là. Personne ne remet.
Ah, c'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. Si jamais Godu fait 30e de toutes les courses.
Et je sais pas, de mettre directement Lenny Martinez à ce moment-là, je sais pas.
Sur le tour.
Ou Romain Grégoire, non, personne n'y croit. Bon, j'ai tenté.
Le tour, c'est quand même vous allez me dire c'est un grand tour comme les autres, mais non, c'est bon, c'est très bien. Le tour, c'est le tour. C'est une pression. Enfin voilà. Non, je pense pas. Là, ça serait vraiment sauter dans le grand bain.
C'est enterré Godu, quoi. C'est terminé. Hein.
Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ce qu'on ne lui souhaite pas, on lui souhaite de faire un petit podium sur Paris-Nice. Mais Paris-Nice, on en parlera tout à l'heure, puisqu'avant, on attaque pas.
Attaque de Pierre-Roland encore une fois.
Personne ne réagit.
Bon, qu'est-ce que j'ai noté de trois trucs? Donc, la victoire de Marianne Vos sur Light News Blad aussi, ça, il faut notifier. Elle n'avait jamais remporté cette course, comme quoi il y a des choses qu'elle n'a pas, gagnées pour Marianne Vos. Van Envel, donc...
Et l'autre a perdu, quoi.
Bah oui.
C'est ça qu'il faut dire.
Mais non, mais attends, je loue quand même la puissance de la néerlandaise qui quand même commence à être âgée, mais arrive toujours à remporter de beaux succès. Donc, Van Envel, ton Belge, James, qui a remporté lui autour avec grâce notamment à des bonifications. Marc Hirschi qui est aussi, s'était aussi imposé sur la Fondrome Classique, le champion de Suisse. Et puis les propos de René Bernaudot, c'était dans L'Équipe, qui dit en gros, je vais essayer de résumer très rapidement parce que c'était un petit peu long, il dit qu'il n'a pas envie d'aller en World Tour, il préfère rester à cette place pour ne pas avoir un calendrier trop surchargé. En gros, c'est ça, de pouvoir choisir ses courses. Il veut bien accueillir Alaphilippe, ça je le comprends, et il préfère des coureurs humains plutôt que des robots. Voilà ce qu'il a dit entre guillemets. Tiens James, tu veux peut-être parler de Van Envelt très rapidement parce qu'il faut qu'on avance aussi, peut-être c'est ça que tu retiens.
Oh, mais j'aimais beaucoup l'interview de Bernaudot, mais je suppose que l'un de mes deux compères va s'en charger. Ben non, mais Van Envelt, voilà, que dire de plus, c'est formidable. Okay, un mélange merci. Mais non, mais c'est formidable parce que c'est pas juste à la pédale, c'est juste aussi le mec qui va chercher sa victoire en allant dans une échappée sur du plat, en prenant des secondes de bonification, un truc un peu fantasque. Voilà, c'est pour faire clair, c'est un mélange de talent, d'intelligence et de folie. C'est ce qu'incarne Lennart Van Envelt depuis toujours, depuis qu'il est gamin. Ben là, on en a eu la démonstration l'espace d'une semaine, donc c'est fantastique. Il est capable de partir dans des trucs un peu insensés. Alors, certainement, dans sa carrière, ça va être un peu à son désavantage, hein. Il fera des trucs où on comprendra rien et ça n'aura aucun sens si on se dira, mais il a couru comme un gland. Mais parfois, on ira jusqu'à dire, oui, c'était un coup de génie, quoi. Donc, Voilà, formidable, c'est cool.
Ça a été dit. Sinon, nous, on va plutôt partir sur Bernaudot. Je pense que c'est ce qui nous intéresse le plus. Anto, dans les propos là, que je souligne,
Il n'a pas lu l'interview.
Il n'a pas lu, évidemment, non. Il ne regarde pas les courses, il n'a pas lu. Mais est-ce que tu comprends, Jean-René Bernaudot, est-ce que tu comprends le fait qu'il ne veuille pas aller en World Tour? Que vraiment, il préfère faire 19e, 20e et pouvoir choisir ses courses?
Ah bah c'est sûr que de toute façon c'est une approche qui est différente, tu subis beaucoup moins les déplacements et tu peux plus manager au niveau de ton effectif. Maintenant, il y a eu une interview d'Anthony Turgis que j'ai lu où il est quand même déçu, je crois, lui de son côté, de ne pas faire voilà les courses qui lui conviennent. Donc ouais, j'ai un peu de mal avec ces déclarations. Moi j'ai l'impression que je veux dire, tu dis ça quand tu y es pas, en fait. Tu vois, je pense que tu peux pas renier le World Tour, même si c'est des grosses, c'est des gros calendriers, des gros déplacements et que voilà, ça fait, c'est une grosse organisation. Je pense quand même que après, on va voir sur quelles courses ils vont être invités. Mais en tout cas, visiblement, il y a certains coureurs qui sont un petit peu déçus. Et juste pour rebondir, prêt à accueillir Alaphilippe, oui, mais tu pourras pas accueillir un Alaphilippe si c'était pas une World Tour, je veux dire.
Bah, comme un Sagan, en gros, même si je souhaite pas la même fin de carrière que Peter
plus,
Sagan.
Sagan et Alaphilippe.
Non, mais en gros, qu'il a bien
on
n'est
pas au même point, je pense.
Il a bien dit presque que Peter Sagan, c'était plus une pancarte qu'autre chose. Presque.
Ah bah, mais c'est bien qu'il l'admette. Hein,
à demi-mot, je sais pas ce que la Tib en a pensé de cette interview.
Non, il faut...
Mais il a dit pareil pour Alaphilippe, c'est avoir ce rôle de leader qui transmet. Bah, ce qui transparaît en fait de l'interview de Jean-René Bernaudot, c'est qu'il est extrêmement gentil. Et en fait, les gentils se laissent souvent marcher dessus. On est dans un sport professionnel et le sport professionnel, c'est un monde de requins. Lui, il vise la 19e, 20e position, dommage, il est à la 21e, il perd des invitations. Il veut être sur une ligne de flottaison, mais bon... Bah, le problème, c'est que si t'es en dessous, t'es foutu. Si t'es au-dessus, faut que tu sois bien au-dessus. Faudrait qu'ils visent mieux. C'est une équipe qui a un passif, qui a un passé. J'en attends quand même mieux de la Total Energy avec l'historique qu'elle a.
Ouais, et surtout, il dit qu'il veut transmettre tranquillement son équipe. Il pense à la retraite, Jean-René Bernaudot, notamment à Thomas Vauclair. Ça fait longtemps qu'on en parle. Et il y a aussi quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est le fait qu'il préfère avoir des coureurs sympas, en gros, plutôt que des coureurs qui sont juste des robots qui envoient des watts, on va dire. C'est ça aussi un petit peu qui m'a un peu pas choqué, mais c'est juste que l'idée de performance, elle est quand même dans le cyclisme, mais là on n'a pas l'impression qu'il prend une équipe pour performer, sauf que derrière Total Energy qui met l'argent. Alors après, je suis pas dans les petits papiers, mais je suppose qu'il y a aussi une envie de visibilité. Là, il y a le Tour de France cette année, mais avec les performances actuellement, avec des équipes comme Tudor, comme je sais pas moi, Q36.5 ou etc. Bah, il y a des équipes qui toquent à la porte, et j'ai peur que Total Energy soit débarqué. Et à ce moment-là, ça peut être la mort d'une équipe. Hein. Non.
Mais ils seront pris.
Bah, et Tudor, ça a quand même fait un gros recrutement. Attention, je sais pas. Au niveau
des points, ça devient catastrophique. Donc, les invitations futures peuvent être problématiques. La Total Energy, c'est un petit tout mignon, mais à un moment, il va falloir montrer les crocs.
Ouais, parce que Turgis ne peut pas faire la saison de classique complète, donc du coup, ça va être compliqué de performer. Pierre Latour, c'est vrai que voilà, sa carrière était un peu en dents de scie, notamment à cause de ses problèmes en descente. Il y a Burgodo qui performe, mais derrière, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui transparaît, un sprinter, un grimpeur. Voilà, c'est ça qui me fait un peu peur pour Total Energy.
Mais par contre, dans l'interview, quand on note extrêmement de gentillesse aussi, j'ai noté ce petit point sur le Tour du Rwanda où il disait que pour pallier un peu le différentiel de niveau avec les équipes qui sont locales et qui n'ont pas de matos, ils préféraient venir sans vélo de chrono et sans oreillette. Et ça, par contre, je trouve ça extrêmement louable de sa part.
Ouais, c'est vrai que j'ai noté ça et que comme ça, au moins, ça permettait à tout le monde d'être à peu près au même niveau. Je ne sais pas si Israël l'a fait, notamment, qui est là sur le Rwanda. Mais bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Et une autre histoire qu'on va se raconter aussi, c'est les Strade Bianche, c'est la poussière, c'est Paris-Nice qui arrive. C'est Tirreno Adriatico, ce sont les courses par étapes et l'Italie qui arrive.
Allez mon petit, on en remet.
Il suffit d'accélérer un petit peu pour qu'on arrive à finir dans les temps dans ce podcast parce qu'on a pris beaucoup de temps pour parler de pas mal de choses. Mais vous inquiétez pas, les preuves de toute façon, Anthony lui dit je m'en fiche, hein, donc ça va aller vite au niveau de cet avis. On verra. Non, c'est bon, on regardera la course et on verra. Donc voilà, l'analyse est faite d'Anto. Pour le reste, on va essayer de donner la parole aux gars pour les Strade Bianche qui ont lieu ce week-end avec la reprise de Tadej Pogacar. Très simplement, la première question, James, Tib. Mais qui peut contrer le Slovène sur ces Strade Bianche? Est-ce qu'on voit autre chose que la victoire de Tadej Pogacar avec 2 minutes 30 d'avance?
Je pense qu'il gagnera avec 2 minutes 43 d'avance.
Ah bon, bah 2 minutes 43. voilà.
Ça y est, on rentre dans les prévisions, ça y est.
Ouais, tu vois, c'est pour ça que je lui donne la parole. Reste là, il y a le quiz qui arrive derrière, t'inquiète pas. Ah, il faut bien.
Non, moi je suis curieux de voir un Daniel Martinez quand même qui avait l'air d'être très en forme autour d'Algarve. À voir. Mais de là les battre Tadej, je n'en sais rien, mais il y a quand même du bon niveau sur cette course. Hein. Faut pas enterrer la concurrence trop vite. Ça reste quand même parfois aussi une loterie. Hein, les ennuis mécaniques. Tadej n'est pas à la merci d'une crevaison, voire même d'une chute. Hein,
après,
à la régulière sans doute, mais.
Après, il arrive avec une grosse équipe, avec Isaac Del Toro, aussi. Avec Mark Hirschi, avec Tim Wellens. Moi, je trouve que la concurrence à côté, elle est pas forte. Hein. Maurice est là, Christophe Laporte, Sepp Kuss aussi. Bon, c'est pas forcément des mecs qui sont faits pour ce genre de course la plupart du temps. Julien Lafilippe est là, mais ça fait un petit moment. Kuss, sur les classiques, on l'a pas encore vu. Madouas, c'est là, Pidcock. Mais voilà, en gros, ce sont les coureurs qui pourraient embêter le plus Pogacar. Mais bon, ça manque quand même d'un Van Der Poel, d'un Van Aert pour essayer de contrer le monstre.
T'as vu l'équipe Visma aussi, Christophe Laporte. On a Sepp Kuss qui s'illustre parfaitement sur les chemins de terre sur à peu près tous les profils. On a Bart Lehmann qui s'est montré en début de saison. On a Ben Tulette qui est un cyclocrossman. On a Milan Vader qui est issu du VTT. On a Attila Valter qui s'est très bien exprimé et qui est en forme en ce début de saison. Ils alignent 7 coureurs et ils ont 6 leaders. Après, il y a aussi la concurrence en interne, parce qu'on voit un Isaac Del Toro qui est aussi issu de la filière VTT, qui est sur un début de saison assez indécent et qui a aussi ce tempérament offensif. Donc, on a peut-être un co-leader qui peut aller semer le doute au niveau de l'adversité et puis de Tadej Pogacar, qui n'est pas non plus à l'abri d'un problème mécanique sur des chemins de terre.
Ouais, en tout cas, même si j'adore les Strade, je suis moins enthousiasmé avant cette course cette année. Voilà, sans doute parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence de niveau. Mais attention, on va largement pouvoir me faire mentir. Donc ce week-end, il y a aussi donc Paris-Nice. Paris-Nice donc où se retrouveront normalement Remco et Primoz Roglic. Vous vous souvenez de cette excellente bataille l'année dernière sur le Tour de Catalogne, bah, ça va être le round 2. Ça par contre ça commence à, je sais pas James, mais c'est plus intéressant, non?
Plus intéressant, soit parce qu'il y a Remco que ça y est, la course est plus intéressante.
Non, mais les deux, la dernière fois, ils ont fait un festival. Enfin, ils ont attaqué partout. Ouais.
Non, moi, je suis plus curieux de voir ce que ça va donner. Roglic version Bora.
Ah oui,
ça, Remco, ça, bah ça, oui, Remco, il va être fort. Oui, ça, on le sait. Mais Roglic, avec son nouveau maillot, sera-t-il aussi fort? Il avait l'air assez affûté. J'ai vu une photo passer. Ça avait l'air, ouais, il a l'air d'avoir perdu.
Il s'est rasé les pattes.
Ouais, donc non, je suis curieux de voir. Franchement, voilà. Est-ce que Roglic, qui a quand même pris un risque, hein, en quittant Visma, hein, pour aller rejoindre Bora, je suis très très curieux de voir ça.
Anto, c'est l'attrait de ce Paris-Nice, et tu veux voir Primoz Roglic avec ses nouvelles couleurs.
Je veux voir la Jumbo et tout écrasé. Et puis moi, je veux surtout voir l'estradé. Je veux voir du spectacle. Je veux voir de la crevaison, de la glissade. Je suis en train de regarder la météo d'ailleurs.
Ah,
du côté de. Par contre, ciel, parce que ça, vous en avez pas parlé. Il pleut toute la semaine en Italie. Hein.
Ah, ça, mais, c'est vrai que ça peut être.
Respecte un peu le sponsor, c'est Visma, hein, c'est pas Jumbo.
Ouais, j'y arrive pas moi.
Mais
Visma, Lise Bike.
Ouais. Question météo, je te rassure, il pleut tout le temps, sauf samedi, la météo ne fera pas des siennes du côté d'Estradé.
Oh, elle était belle celle-là. Oh là là.
Ah ok, d'accord, c'est encore une...
Mais il a préparé. Une bordure.
Ah, oui, est-ce qu'il y aura du vent? Parce que c'est ça, parce que faire des siennes, à sienne, ça va, mais par contre, analyser le parcours sur les 30 premiers kilomètres avec un vent de côté, ça y a du monde.
Non, j'ai pas regardé la start list en plus de Paris-Nice. Ouais, c'est loin, Paris-Nice, non, c'est quand?
C'est loin,
c'est ce week-end.
Oui, c'est carrément loin.
C'est dimanche prochain.
Oh. Alors, t'as complètement arrêté de regarder le vélo, là. Oui, d'accord.
Mais
figure-toi qu'aussi,
le cyclocross vient juste de finir. D'ailleurs, on aurait pu parler un peu du dead la dernière.
Non, mais t'as des space pour ça. T'as des spaces sur. Attends, tu nous embêtes avec tes spaces là toutes les semaines là où ça parle sous bois. Au bout d'un moment, on vous a laissé le temps. Vous avez bien cartonné d'ailleurs.
Ils partent des murs en plus. Bah, je vais y aller voir dimanche.
Bah voilà, comme ça, ça fait un heureux, voilà. Tiens, bah ils partent des murs pour ceux qui veulent aller voir. Et moi, je serai du côté d'Auxerre pour ceux qui veulent claquer la bise.
Il y a une troisième curiosité, hein, du côté de Paris-Nice, c'est celle de Matteo Jorgensen qui est dans la posture de leader et qui arrive à Nice à domicile.
Et surtout qui va devoir switcher très rapidement entre les classiques et les courses par étapes. Mais bon,
t'as trouvé où la start list toi?
Sur la présentation de l'équipe 2024 à cette conférence de presse d'Evisma, il avait dit que son objectif principal de la saison c'était Paris-Nice.
Ah, carrément. Donc après c'est le seul endroit où il sera à peu près leader. Après le reste est terminé.
Après c'est aider le pôle classique et épauler au mieux Vingegaard sur le Tour de France. Donc son objectif principal de l'équipe, c'est Paris-Nice.
Voilà. Et on a aussi de l'autre côté de l'Italie, on a aussi Tirreno Adriatico, où il y aura Vingegaard, pas Pogacar. Là aussi, il y a ton Martinez que t'aimes bien, type qui est de l'autre côté du côté de Tirreno Adriatico. Mais si Vingegaard reste au niveau où il a été au Gran Camino, je vois pas aussi d'autres issues. Bon, je sais pas si vous avez autre chose à dire là-dessus. Je sais pas ce qui.
Regarde la montée Petrano, l'étape numéro 6. Okay. Tu vois ça, tu fais bon, bah Vingegaard, adieu, terminé, bonsoir. Il va leur mettre une pilule.
Il y a quand même Adam Yates, voilà, en plus, sur la start list.
Il faut voir si c'est remis de sa commotion cérébrale.
Hein. Ayuso, ouais, c'est vrai. Parce qu'il a lourdement chuté. Ouais. Bon, en tout cas, qui est attendu. Filippo Ganna, bien sûr. Il y a un chrono à Tirreno? Oui, il y a un chrono. Bah, qui va gagner le chrono?
Le premier jour, le premier jour.
Il y a Ben O'Connor, attention à Ben O'Connor, même s'il a été battu par Van Enveldt. Voilà donc pour Tirreno, Paris-Nice et Strade Bianche. Vous avez compris, c'était juste de quoi... à faire attendre les gens avant le quiz, parce que je sais que c'est ce qui intéresse le plus les gens maintenant, surtout qu'on a le roi du quiz. Mais sera-t-il le roi cette fois-ci?
Je vais peut-être remettre ma couronne, non?
Ouais, on verra bien, on verra bien.
C'est le moment. Ouais.
Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même.
Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
Alors, aujourd'hui, la question c'est Paris-Nice, Tirreno, Stradé, les deux, les trois ou aucun? Donc ça veut dire que je vais vous poser des questions. Vous allez me dire soit c'est Parinis, soit c'est Tirreno, soit c'est Stradé, soit c'est Parinis ou Tirreno, soit c'est Tirreno ou Stradé, soit c'est Stradé ou Parinis, soit c'est je sais plus si j'ai tout dit, ou soit c'est les trois, ou soit c'est aucun. Okay. C'est bon, vous avez compris?
Ouais, j'ai pas trop compris, mais bon,
il y a
je vais me laisser chauffer.
10 questions et une question bonus.
Tim, on te voit écrire sur ton clavier là.
Vous inquiétez pas, ça va être très dur de.
Mon clavier, si tu veux, il est là, donc va falloir que j'allonge le bras.
Ton chat... téléphone entre tes jambes.
Ouais, le chat, bien sûr, peut jouer.
Mon téléphone, il est là,
évidemment.
Mais si tu veux, regarde, tu vois le téléphone?
On a vu. Ah, oh, bah, au moins, il n'y a pas de tricherie. Mais ça te permet en tout de tricher en toute impunité et d'être tranquille parce que c'est le seul qui peut.
Parce que là, je te vois ouvrir tes.
Pour faire la diversion.
Il sait même pas qu'il y a un stage sur la start list ni que Parinis commence. Tu crois qu'il va gagner un quiz? On va voir.
Méfie-toi.
Première question, les gars. Ça va être très rapide. Le chat peut jouer, bien sûr. Vous répondez, même si là, ça va être très dur d'être plus rapide que mes joueurs d'aujourd'hui. Donc, Parinis, Tirreno, Stradé, ou les deux, ou les trois, ou aucun. Pogacar l'a remporté.
Les trois.
Les trois, c'est une bonne réponse pour un type qui marque donc ce premier point. Je vais le noter. Primoz Roglic l'a remporté.
Les deux.
Celles.
Les deux, faut dire lesquels, si tu dis
bah,
les deux.
Pas l'Estradé.
Ouais, bah,
il descend comme un manche.
Donc si c'est pas l'Estradé, c'est quoi?
Bah, les deux autres, c'est Parinis et Tirreno.
Ouais, bah, alors là, ça a mis du temps. Hein. C'est Parinis et Tirreno en même temps que le cyclisteur sur la startlist. On va donner le point à Anto qui a été... Quand je lui dis qu'il faut donner les deux, il donne l'autre qu'il ne faut pas donner. Remco y a déjà participé.
Aucun.
Ce n'est pas bon. Remco y a déjà
participé. Il a fait Tirreno.
Il a fait Tirreno. Bonne réponse pour James. Il a fait Tirreno. Vingegaard ne s'y est jamais rendu.
Stradé.
Ouais. Stradé, c'est une bonne réponse pour James. Ça va vite, ça va vite. Deux points pour James, un point pour Anthony, un point pour la Tib. Un Français l'a remporté au 21e siècle. Un Français l'a remporté.
Un seul, l'Estradé.
L'Estradé, c'est une bonne réponse à un type qui égalise face à James.
Ah oui, les épreuves par étapes, les Français n'y arrivent pas, je suis con.
Attends, on arrive. Un Belge,
les Belges non plus.
Un Belge l'a remporté au 21e siècle.
Les deux. Parinis et Estradé.
Parinis et Estradé, c'est pas bon.
Ah. Non, Stradé et Tirreno.
Stradé et Tirreno, tout à fait, avec donc les Stradé plusieurs, hein, il y a Van Aert, Benoît et tout. Et Tirreno, qui est le vainqueur de Tirreno? Un point pour Anto qui égalise. Dans 21e siècle, le Belge, James. James.
Oh putain.
Pas toi. Champion olympique. Qui a remporté
Van Avermaet.
Van Avermaet qui l'a remporté.
C'est vrai, dans une édition cadeau, ouais. C'est vrai, j'avais oublié ça.
Tout à fait, je l'avais oublié aussi, c'est pour ça que j'ai noté. Septième question, wow. Tout le monde est à égalité avant cette septième question. Je n'ai jamais eu de vainqueur néerlandais au 21e siècle. Personne, aucun néerlandais l'a remporté au 21e siècle.
L'Estradé?
Ce n'est pas l'Estradé.
Non, Tirreno et Parinis.
Non, ce n'est pas Parinis, c'est Tirreno. Il n'y en a qu'un seul pour vous aider.
Du coup, c'est Tirreno.
Non, ouais, ce n'est pas Tirreno.
Stradé... Attends, c'était quoi la question?
Je n'ai jamais eu de vainqueur
néerlandais.
Catastrophique.
Au 21e siècle.
Catastrophique.
Allez, là, normalement, il ne vous reste plus qu'un.
Bah, il ne reste plus que Parinis.
Trois, alors.
Parinis, merci, voilà. C'est les types qui avaient.
Non, non, mais là, on a perdu. Non, non, mais c'est une question, une réponse.
Oh, là, on a perdu, donne-lui pas de points.
Ok, bah, oui, pas de points. Je donne au chat parce qu'on l'a donné.
Il a tout dit à un moment. Non.
Je donne au chat. C'est donc Parinis, aucun vainqueur néerlandais. Le dernier vainqueur, c'est Bogert en 99. Voilà, pour la petite anecdote.
Ah,
pour
tiens,
les Stradé, il y en a eu avant. Il y a Mathieu Van Der Poel notamment. Et sur Tirreno, je me souviens plus. Figurez-vous, est-ce que vous voulez savoir? Est-ce que vous voulez le savoir? Je vais vous le donner. Alors, tac, tac, c'est Thomas Dekker et Eric Dekker qui ont gagné au 21e siècle. Voilà.
Que des gars propres.
Exactement.
Ensuite, des Slovènes sont tenants du titre.
Les deux.
Les deux.
C'est Stradé.
Stradé. Et ouais, Pirreno. Et Parinis. Ouais. Ah, tu vas trop vite.
Non, 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 c'est pas Stradé.
Non, mais non, Stradé, c'est
Stradé du seul, Stradé.
Oh, pas de
Stradé Parinis.
Mais non, c'est pas ça.
Stradé, Parinis.
Et c'est faux.
Mais non.
Je vous donne pas le point, vous avez tout donné. Parinis et Tirreno.
Parinis.
Mais oui.
Oui.
Mais Pidcock.
J'ai complètement zappé Pidcock l'année dernière.
Attention, vous êtes toujours égalité, ouais. Les gars. Neuvième question. Un Ukrainien est monté sur mon podium final au 21e siècle.
Un quoi?
Un Ukrainien. Ukrainien.
Wow. Aucun.
Non, c'est pas bon, c'est pas aucun.
Attends, parce que.
Tirreno.
C'est pas bon.
Bah.
Il y en a deux, figurez-vous. Je vous aide un peu. Il y en a deux.
Il y a Stradé, mais ça doit être dans les premières éditions. Il y avait un Suédois aussi qui a gagné.
Moi, je veux des... un Ukrainien monter sur mon podium final.
Podium final.
On a perdu.
J'attends le chat en même temps. Pour l'instant, on n'a pas donné la bonne réponse. Il y en a deux.
Sinon, c'est Paris-Nice et Stradé, quoi.
C'est Paris-Nice et Stradé, en effet. Mais c'est Popovic en 2008 qui est monté sur le podium de Paris-Nice. Et pour les Stradé, alors là, je l'ai regardé. Kalilov, en 2007, lors de la première édition. Kalilov,
arrivé à Nice, Kalilov. Arrivé sur la promenade des Anglais.
Pour Paris, oui. Merci Anthony, rien que pour ça, je donne 0 point parce que vous avez été nul. Donc tout va se jouer sur cette dernière question.
Allez, si je vous trèfle là, les gars, vous n'avez pas fini de m'entendre parler.
Alors celle-là,
très bien.
Yann Tratnik, notre chouchou, ne l'a jamais fait.
L'Estradé.
Ah, c'est faux. La type, tu n'es plus dans le jeu.
Nice.
Tu n'es plus dans le jeu.
Il n'a jamais fait Paris Nice.
Tirreno.
Tu n'es plus dans le jeu. Il a tout fait, mon Yann Tratnik, et il va tout remporter. Voilà donc la réponse. Donc, vous avez la 11e bonus.
Et comment on fait, du coup, alors
11e bonus.
Il y a un bonus.
Ah. Alors, celle-là, c'est, la, c'est peut-être la plus facile. Anthony l'a déjà regardé.
L'Estradé. Les trois, d'ailleurs.
Non, moi, je l'avais dit aucun, à la base. Mais
quoi, c'est quoi cette question bonus?
Il regarde jamais les courses, Anto. Donc,
le mec, il avait plus d'inspiration pour ces questions.
11e, Anthony a déjà regardé.
J'ai gagné. Ah,
la trail a distradé Paris-Nice. Écoute, j'accorde aucun point. Personne ne sera vainqueur du quiz, de ce quiz, malheureusement, puisqu'on vous laisse égalité. C'est pas grave. Le chat n'a pas
incroyable.
Été. Mais on n'empêche, Anto. Alors, beaucoup sont. Enchanté de te revoir, et mais Latrelle 2015 a dit les trois, tu vois, comme elle te surestime, tu vois. Pour regarder.
Mais non, je vais regarder les trois, tu rigoles quoi.
Tu vas regarder les trois?
Bon, c'est pas tout
Paris-Nice.
Temps.
Oui, bon, bah voilà. C'est autre
non,
chose.
Mais je regarde Paris-Nice la semaine d'après, des fois. Où,
tiens,
tu vois.
En parlant de Paris-Nice, on coupe la poire en deux, c'est l'heure des paris.
Ah, c'est même pas vrai.
Bon, y'a qu'on met les paris, c'est
vrai. Alors, comme il y a plein de courses, c'est très simple. Pour aller plus vite, vous allez me.
On joue sur la même course.
Non, bah soit on joue sur la même course, soit vous me donnez un pari sur une course, n'importe laquelle. Vous voulez jouer sur laquelle? Sur laquelle vous
non, on joue sur la même course.
Tu veux laquelle? Du moins Anto, vas-y, c'est toi qui.
Bah non, l'Estradé, ça va être trop simple.
Ok, ah ok, tu veux.
Mais Paris-Nice, parce qu'il y a que là où il y a de la concurrence.
Très bien.
Ouais.
Allez, Paris-Paris-Nice. Je vais chercher les cotes en attendant, à part si tu les as déjà. Je sais pas si je vais pouvoir les retrouver. En attendant, alors si vous voulez parier sur Paris-Nice, qu'est-ce que vous, Anthony, qu'est-ce que tu vois sur Paris-Nice?
Bah attends, je cherche la start list.
Ouais, super, alors on est mal barré. Allez, Atib, toi tu as l'habitude des paris foireux. Qu'est-ce que tu vois?
T'as l'habitude, Anthony. De toute façon, il y a trois noms à retenir. C'est soit Jorgensen, soit Remco Evenepoel, soit Primoz Roglic.
Oui, Jorgensen, bon, bah, tu mets Roglic. Assez haut, mais c'est ton Milan de ce week-end. Tu vas prendre Roglic? Tu prends Roglic, vainqueur de Paris-Nice?
Je prends Primoz Roglic, vainqueur de Paris-Nice.
Très bien. Alors, qui gagne la revanche face à Remco? James, qui est le vainqueur?
Je prends Jorgensen, pour être original.
Ah bah, je prends Remco, alors.
Bah, d'accord, super. Attends, moi, je me
sortir. Sinon, j'aurais pris Jorgensen aussi, moi. Mais...
Moi, je vais vous en sortir un autre. Vous allez voir, je vais vous en donner un autre.
Il va prendre David Gaudu.
Vu comme il est encensé dernièrement, je ne suis pas sûr de prendre David Gaudu. Mais par contre, s'il est là, je vais vous mettre Mathias Kainmose. Voilà.
Il est prévu, ouais.
Voilà. Ah. C'est une belle cote quand même, mine de rien. C'est un coureur qui est performant en ce moment.
Ouais.
Voilà, sur un malentendu. Ouais. Remco,
t'as joué quoi, toi, Tib?
À Primoz.
Ouais, il va faire deux, quoi. Donc, du coup.
Il y a aussi Joao Almeida pour ceux qui veulent, Félix Gall qui est
non,
là.
Mais je vais le 2.
Bah,
je peux vous assurer qu'il va faire 2. On en reparle la semaine prochaine.
Et on a oublié quelqu'un, on a oublié Vlasov qui est même dans l'équipe de Roglic, mais vu comme il aide et collabore avec ses leaders la plupart du temps, faut pas oublier que à tout moment il peut jouer sa carte. Peyo Bilbao aussi, c'est voilà pour les principaux favoris. Et il y aura aussi Mathieu Burgodo pour la Total Energy qui est là et qui a intérêt de performer. On l'a compris, on l'a dit tout à l'heure. Merci les gars, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour parler de tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer toutes ces courses, l'Estradé. D'abord parce qu'il y aura pas mal de choses à dire, je l'espère, et puis Paris-Nice et Tirreno par la suite. Salut aussi au chat, merci d'avoir participé et à très vite. Salut tout le monde.
Bye bye.
Allez, ciao.
Bonne soirée.
Selling a little or a lot?
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.